session de théologie par le père Philippe à la Saint-Jodard le 11 août 88, conférence du soir.
Elle est excellente cette question, je n'y réponds pas. D'où sort la femme de Caïn? Vous comprenez bien que vous ne le savez pas et moi non plus. Ben c'est au fond, là, on touche le mystère. Il nous est révélé certaines choses et d'autres choses ne sont pas révélées. Et donc, on ne le sait pas. C'est évident que s'il y a un seul couple au début, il y a donc des alliances entre frères et sœurs. C'est évident. Et ça, c'est la volonté de Dieu. C'est le propre de cette famille première d'où est sortie toutes les autres familles. Si ça vous scandalise, ça prouve que vous moralisez beaucoup trop. Ayez un peu le regard de la sagesse de Dieu. Le regard de la sagesse de Dieu, nous sommes nous dans la série, alors très bien, la morale. C'est précisé, on comprend très bien. Quand on regarde la vie d'Abraham, on voit bien des choses comme ça déjà. Et Dieu a assumé tout ça. Et c'est une des choses moi, qui me frappe beaucoup, c'est qu'Abraham reçoit la foi, il est justifié par la foi. Petite histoire en Égypte. Petite histoire. Il doit aller en Égypte, petit. Sarah est encore très belle. Et Abraham a très peur. Alors, tu es ma sœur. En disant ça, il livre Sarah au Pharaon. C'est extraordinaire. Point de vue de la foi, hein. Ce qui montre bien la différence entre nos vertus théologales, les convertis sentent ça très fort. Et dans le monde d'aujourd'hui, on le sent très fort. Les vertus théologales viennent d'en haut. Les vertus morales, on les acquiert d'une façon chaotique. Et on a pu très bien, pendant un certain temps de sa vie, les vertus morales, hein, l'éducation qu'on a reçue, rien du tout. Et puis Dieu nous a donné les vertus théologales, foi, l'espérance et la charité. Et la miséricorde. Progressivement, on acquiert les vertus morales. Progressivement. Celui qui dirait « Ah non, moi j'en ai pas besoin. » Attention. Il faut que la pâte soit transformée par le levain. Le levain, c'est les vertus théologales et la pâte humaine. C'est nos activités humaines qui, progressivement, doivent être transformées par les vertus. Pour mettre plus de souplesse, plus de une profondeur aussi. Il faut que nos passions soient éduquées. On n'a pas le droit de dire, moi j'ai une foi énorme que Dieu m'a donnée, peu importe le point de vue moral, je m'en fiche pas mal. On n'a pas le droit. Pas un iota de la loi ne disparaît. Jésus le dit. Et si Jésus le dit, c'est parce que justement, il y aura des tentations de laisser tomber ce point de vue. Mais c'est très vrai que les vertus théologales, aujourd'hui, pour la plupart, les vertus théologales priment. Je crois, dans la formation de la vie religieuse, puisque nous sommes ici dans un laboratoire de formation de vie religieuse, dans la vie religieuse, c'est la même chose. Le noviciat n'est plus comme avant. Plus du tout. connu mon noviciat. Durant mon noviciat, j'ai connu un père qui était connu, que je connaissais de nom, par le père de haut, qui était le père maître considéré durant sa génération. Il nous a fait une conférence en disant « Voilà comment j'ai été père maître ». Il nous a raconté comment il éduquait ses novices. Mais ça vous donnait la chair de poule. Vous avez de ces vosses, oh là 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 là, c'était quelque chose. Je ne vais pas vous raconter des détails, mais c'était un seul détail, si vous voulez. Hein. Parce qu'il est tellement bon, celui-là. Et je ne dis pas qui, mais il venait du fin fond de la Bretagne. C'était déjà quelque chose. Hein. Il était déjà un peu connu. Un petit poète. Poète breton. Il arrive avec 6 valises. Ça agace prodigieusement le père maître. Le père maître le reçoit en lui crachant sur le visage. Hein? Et le père maître, après, j'ai peut-être été un peu loin. Alors, il appelle le plus ancien du noviciat, et puis il lui dit, vous pourriez peut-être aller lui dire que je lui permets de ne pas descendre au repas de midi, parce qu'il doit être assez mécontent. Il faut qu'il cuve un peu son vin. Mais ce soir, s'il ne descend pas, il n'a qu'à partir. S'il descend ce soir, j'ai compris, pas la peine d'explication, c'est fait. Le soir, il descendait. Il y avait toute une série de choses comme ça. Il ne faisait pas systématiquement ça. Mais devant les 5 valises, vous voyez, il vient pour continuer de ses poèmes. Non, la vie n'est pas fait pour ça. Donc, c'est très vrai qu'avant, on éprouvait les vertus. Le noviciat, c'était ça. Éprouver les vertus. Et au Carmel, le noviciat, savoir si on était capable de mener la vie régulière. Alors, on ne pardonnait rien. Capable de se lever le matin à l'heure tôt du Carmel, de rien prendre comme nourriture la matinée. Est-ce qu'on était capable de tenir la règle? C'était le signe de la vocation. Et un aspect un peu héroïque, stoïque. C'était ça qui montrait si on avait la vocation. Déjà de mon temps, c'était moins ça. Mais, quand même, un novice qui n'aurait pas su tenir le règlement, c'est est-ce que vraiment vous êtes fait pour nous? Est-ce que vraiment vous êtes fait pour nous? On va poser une question. Bon, maintenant, on regarde avant tout le point de vue des vertus théologales. On forme avant tout un don de soi dans la prière, dans la soif de contemplation. Et puis, on essaie de fortifier des volontés faibles. Mais on ne vous dira pas, c'est un signe de non-vocation, parce que vous n'arrivez pas tous les jours à être présent à la méditation, à l'oraison, et ne jamais demander d'exception. Non, on ne dira pas ça. Oui, déjà de mon temps, on faisait des exceptions. Le père Carré, dominicain, qui a prêché à Notre-Dame, bien connu. Le père Carré, qui avait très peu de santé, de fait, de façon presque régulière, se levait. arrivé plus tard que les autres. Je sais qu'au moment de sa profession, on a beaucoup hésité. Mais étant donné la qualité de l'homme, au plan religieux, au plan profond, on est tant pis. Mais on ne peut pas établir une règle générale sur le plus fainéant. C'est évident. Mais on peut faire des exceptions. Et puis, est-ce que c'est un fainéant ou est-ce que c'est tout simplement quelqu'un qu'on n'a pas éduqué ? On n'a pas éduqué sa volonté. Or, la rééducation est beaucoup plus longue. Hein. C'est beaucoup plus facile d'éduquer quelqu'un qui a 4 ans que d'éduquer quelqu'un qui en a 24. Beaucoup plus difficile. Alors, c'est toute une rééducation de vie, hein. Changement de vie total. Alors, on insiste beaucoup plus aujourd'hui, et ça, on a tout à fait raison, sur l'aspect théologal. Et on ne dit plus vœux de religion, mais vœux des conseils évangéliques. Ça n'a l'air de rien, mais c'est capital. Ce sont les conseils évangéliques qu'on suit. Et non pas vœux de religion. Parce que la religion, c'est une vertu acquise, morale. Pourriez-vous exposer en deux mots, ça va être difficile, la position des religions de tradition biblique au regard du mystère du péché originel. Ou alors là, ce serait beaucoup trop long. En deux mots, puisqu'on me demande en deux mots. Dans toutes les traditions, il y a allusion à un péché premier. C'est très curieux. Toutes. Vous voyez, Platon, s'appuyant sur des traditions de l'Inde, Platon considère que l'union de l'âme et du corps, c'est une conséquence du péché. C'est pour ça qu'il faut s'évader le plus possible. Et la réincarnation, c'est un peu vu dans cette position-là. On est uni au corps pour se purifier. Alors si vous ne comprenez pas, ben, vous réincarnerez de façon moins digne encore que celle-ci, jusqu'au moment où vous comprenez. Le sang de son frère crie vers toi. Ah oui. Vous ne manquerez pas la chair avec. Vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Le Christ nous offre son sang. Le sacrifice d'Abel, préféré à celui de Caïn, que signifie le sang ? Pourquoi les animaux sacrifiés sont agréables à Dieu ? Oui, alors là, évidemment, je comprends toute la question du sang. C'est une tradition biblique s'est mis très forte. L'âme est dans le sang. Et il faut bien comprendre que Jésus versant son sang et donnant son sang en nourriture, c'est tout cela qui est impliqué dedans. La Pâque, le sang de l'agneau mis sur les portes qui indique qu'on est sauvé. Alors, comme toujours, hein, le sang est pris là de façon symbolique, c'est évident. L'autre jour, je voyais, il y a déjà un petit moment, il y a un an, je voyais un jeune dominicain chinois à Taïwan et qui me disait, il manque souffle dans votre sang. Langage symbolique. Dites ça à un médecin scientifique. Il comprendra les sous. Pas un langage scientifique. C'est un langage symbolique. La Bible a un langage symbolique. C'est pour ça que le sang a des significations diverses. Ben, dites-vous bien que tout symbole a des significations multiples. C'est le propre du symbole. Il n'y a pas qu'une seule signification. Oui, c'est un peu comme l'analogie. C'est pour ça que ça implique l'analogie. Il y a une diversité de significations. La femme, vue dans ce grand passage du chapitre 12 de l'Apocalypse, la femme vue dans le ciel, ce signe dans le ciel, c'est Marie, l'Église, toute créature, et puis la femme. La créature dernière. Toujours, tout symbolique. C'est pour ça que, vous voyez, il faudrait reprendre chaque fois. Le sang de ton frère crie vers toi. C'est ce sang versé. Qu'est-ce qui reste après la mort? Le sang versé. C'est la marque de la mort. Et c'est ce sang qui crie. Qui montre que c'est toi qui l'as versé. Vous ne mangerez pas la chair avec le sang. Vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Donc là, mesure rituelle. Respectez le sang. Parce que le sang est le véhicule de l'âme. Oui, donc encore un autre sens. Ça se tient. Il y a toujours quelque chose de commun. Le sang est quelque chose de sacré. Et on a laïcisé énormément aujourd'hui le sang. Donneur de sang. C'est beau comme acte de charité, de miséricorde, mais on a une question extrêmement, je dirais, scientifique du sang. On n'a plus un sens religieux du sang que toutes les religions primitives ont. Le Christ nous offre son sang, c'est pour ça, c'est pour montrer qu'il se donne jusqu'au bout. Les dernières gouttes de sang et d'eau. Alors, pourquoi toujours parler du péché d'Adam et pas du péché d'Ève? On parle des deux. Des deux, c'est évident. J'ai simplement fait la petite distinction, c'est qu'en disant que Ève a été séduite, donc le péché était plus loin. Et le péché d'Adam, c'est parce qu'Adam est bête. Donc il y a une répercussion plus grande. Saint Thomas traite les questions, mais je ne veux pas les traiter avec vous. Si Ève avait péché seule, est-ce qu'il y a eu le péché originel? C'est très intéressant hein, comme question. Il faut savoir un peu ce qu'on pensait au Moyen-Âge, au terme des... Qu'est-ce que c'était? Puis Saint Thomas dit qu'il n'y aurait pas le péché originel, c'est avec Ève. Vision du Moyen-Âge, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? Dans le peuple d'Israël, si on a une mère juive, on est 100% juif. Même si le père est goïm. Si on a un père juif et une mère goïm, on n'est pas du tout 100% juif. Donc la mère, c'est elle, l'aspect principal. Alors, le péché d'Ève, c'est celui-là qui se transmet. Vous voyez, l'Église n'a pas précisé. Hein. Péché d'Adam et Ève, hein, de nos premiers parents. Alors, ça, c'est la scolastique qui précise, qui essaie de voir les possibles. C'est très intéressant, remarquez, quand on a le temps. Parce que ça ne fait pas partie de la foi directement. Vous voyez, quand l'Église était un peu au repos, on pouvait avoir des discussions théologiques sur toutes les possibilités. Aujourd'hui, l'Église n'est plus au repos. On est en plein champ de bataille. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Alors, on n'a plus le temps. C'est très bien, parce qu'on regarde tout de suite l'essentiel. Et on laisse tomber. On laisse tomber, je comprends très bien qu'il y a des questions dans Saint-Thomas qu'on doit laisser tomber. Parce que on doit regarder plus immédiatement le salut des âmes. Et pour regarder plus immédiatement le salut des âmes, c'est l'Évangile. On ne prêche jamais sa théologie. On prêche l'Évangile. Parce qu'on prêche en tant que témoin du Christ. Mais on peut donner des cours de théologie et des sessions de théologie pour mieux lire l'Écriture. Parce que quand on lit l'Écriture sans aucune théologie, on risque d'être dépendant de la dernière opinion du dernier exégète. Et dans 10 ans, ce sera encore différent. Quand je regarde, depuis le début, j'ai fait mes études, jusque maintenant, toutes les opinions des exégètes entre les deux. Alors si ma foi était liée à ça, vous comprenez, j'aurais pu aller. Notre foi n'est pas liée aux opinions des exégètes. Notre foi est liée à l'enseignement actuel de l'Église. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Alors, je continue. Pour essayer de bien découvrir ce mystère de la recréation. De fait, je parle en tant que chrétien, ici, en tant que croyant. Quand je lis la Révélation, le mystère de la rédemption, le mystère de la recréation, et je dis bien le mystère de la recréation. Jésus donne un exemple merveilleux pour nous faire comprendre ce que c'est que notre vie de grâce, naître de nouveau. Donc c'est une nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Il dit ça à Nicodème, vous vous souvenez? On avait vu ça tout à fait au début. Naître de nouveau. Et Nicodème, comme il ne savait pas et qu'il ne voulait pas perdre la face, alors pose une grosse question. Mais comment se fait-il quand on est vieux qu'on puisse retourner dans le sang, dans le ventre maternel? Alors Jésus explique qu'il confond tout. Confusion entre la naissance selon la chair et le sang et la naissance divine. Vous voyez, langage symbolique. Naître de nouveau. Mais c'est symbolique. C'est bien évident que c'est symbolique. Et le sens profond, c'est la naissance divine. Mais la naissance divine, c'est un langage symbolique. C'est à partir de la naissance physique qu'on regarde la naissance symbolique. Je dis, toute l'écriture est comme ça. C'est pour ça que Jésus dit, la lettre tue. Quand vous prenez matériellement l'écriture, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Seul l'esprit vivifie. Parce qu'il faut lire toujours l'Écriture avec ce sens profond que c'est l'Esprit Saint qui nous éclaire. Et on le regarde de l'intérieur. Quand je regarde l'Écriture, je vois que c'est à la croix que le Christ nous sauve. Et l'Église a pris conscience de cela. L'Église a montré la grandeur du sacrifice de la croix. En voyant que le sacrifice de la croix, c'était le sacrifice du Verbe devenu chair. L'Église nous a montré toujours qu'on ne pouvait rien comprendre, comprendre dans la foi, donc théologiquement, au mystère de la rédemption, si on ne regardait pas que ce mystère de la rédemption se réaliser par le mystère de Jésus qui est le Verbe incarné. Alors, avant d'entrer dans le mystère de la croix, donc dans le mystère de la recréation, la croix croix est source de recréation. Il faut regarder que la croix, c'est l'œuvre. L'œuvre de Dieu. Ergon douteu, dans l'évangile de Jean. Ergon, c'est une œuvre. La croix est une œuvre. Et cette œuvre, c'est l'œuvre propre de Jésus. C'est l'œuvre propre du Christ. C'est une œuvre à la fois humaine et divine. Et c'est pour ça que les théologiens diront que c'est une œuvre théandrique. Théandrix, c'est tout simplement en grec une œuvre humaine et divine. Théos, théandrique, divine. Andrique, homme, andros. Donc une œuvre théandrique, une œuvre à la fois humaine et divine. Si c'est une œuvre à la fois humaine et divine, il faut bien regarder que le mystère du Christ, c'est le mystère du Verbe incarné. Et selon l'expression de saint Jean, le Verbe devenu chair. Il y a un réalisme plus grand, qui est le réalisme de l'Écriture. Le Verbe devenu chair. Ça, c'est le mystère du Christ. Donc, je crois qu'il est nécessaire de réfléchir quelques instants sur l'intention profonde de la sagesse de Dieu qui, sitôt la faute, promet un sauveur. Dieu, dans sa sagesse, a voulu que la faute puisse être un moyen pour que l'homme aille plus loin dans sa vocation à la sainteté. Ceci, c'est l'intention même de Dieu. Les pères de l'Église ont beaucoup réfléchi là-dessus. Saint Thomas, en dernier lieu. Et puis après, ça a continué. C'est très important de voir comment immédiatement après la faute, Dieu n'abandonne pas son chef-d'œuvre. Dieu ne boude jamais. Nous boudons. Quand quelqu'un ne fait pas ce qu'on a voulu, vous savez bien ce qu'on dit. Hein ? On le dit d'une façon extrêmement crue. Maintenant, je te laisse tranquille, hein ? C'est toi qui l'as voulu. Ben, j'ai dit l'inverse, tu n'as pas voulu m'écouter. Adam et Ève n'ont pas écouté Dieu, qui les enseignait directement. Adam et Ève étaient créés dans la foi et avaient cette relation personnelle avec Dieu. Une foi qui leur permettait d'être éduqués directement par Dieu. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas obéi. Dieu aurait pu très bien dire, très bien, maintenant, allez-y. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est vous qui l'avez voulu. Vous voyez, c'est là où on touche la vraie miséricorde de Dieu. Dieu ne boude jamais. Un père qui est vraiment père, ne devrait jamais bouder. Une mère qui est vraiment mère, ne boude jamais. C'est toujours son enfant. Mais quand on a vu une mère allant auprès de son fils en prison parce que son fils avait commis un meurtre, que tout le monde montrait la mère allant voir son fils, elle, ça lui était égal. C'était son fils. as commis toutes les bêtises possibles, tu restes mon fils. Tu restes mon enfant. C'est ça le lien de la paternité. Le lien de la paternité est un lien d'amour, donc au-delà de la faute. Si c'était un lien de justice, la faute briserait. C'est un lien d'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Il a tellement aimé. C'est Jésus qui dit ça à Nicodème. Ça, c'est une phrase très très forte. Parce que ça montre justement ce regard de Dieu sur l'homme, sur Adam et Ève. Il ne peut pas les abandonner. De fait, nous savons comment il ne les a pas abandonnés. Alors, je vous rappelais toute la grande préparation d'Abraham à Marie. Puis, alliance avec Marie, alliance avec Jésus. Et c'est cette alliance-là que Dieu a voulu. Dieu aurait pu, si nous avons le temps, nous développerons ça. Parce que les possibles, c'est quand on a le temps. Dieu aurait pu sauver l'homme autrement. De fait, c'est comme cela qu'il l'a sauvé. C'est intéressant de regarder les possibles pour mieux comprendre la sagesse de Dieu qui a voulu sauver l'homme de telle manière et non pas de telle autre. C'est l'intérêt au point de vue théologique de ça. Il faut donc que toujours la théologie des possibles soit pour éclairer davantage le fait. Dieu a voulu sauver l'homme de la manière la plus miséricordieuse qui soit. Il n'aurait pas pu employer un moyen plus miséricordieux. Donc de la manière la plus aimante et la plus miséricordieuse. C'est pour ça que en sauvant l'homme par le mystère de la croix, Dieu révèle aux hommes son amour et sa miséricorde. Ça, il faut bien le saisir. Sauver l'homme de la manière la plus miséricordieuse qui soit, c'est de redonner à l'homme sa dignité. Si Dieu avait sauvé l'homme sans le mystère de l'incarnation, c'était possible. Tu aurais pu très bien pardonner. Ne recommence plus, mais je te pardonne. Je suis Dieu. Je n'attends rien de toi. Tu t'es agi comme un imbécile. Il aurait pas une bonne punition, mais pas plus. Il aurait pardonné. Donc, sans le mystère de l'incarnation, vous voyez que cela n'aurait pas rétabli l'homme dans sa dignité. Pour rétablir l'homme dans sa dignité, il faut que ce soit l'homme qui sauve l'homme. Ça, c'est génial. Et voyez, je vous disais, la grande tentation d'aujourd'hui, l'homme qui prétend sauver l'homme, voyez la grimace du démon, il n'aurait pas inventé tout seul. La laïcisation du mystère de l'incarnation. Sauver l'homme par l'homme. La plus grande miséricorde, c'est donc de montrer à l'homme qu'il est tellement aimé de Dieu qu'il peut sauver l'homme par un surcroît d'amour. Pour cela, il fallait le mystère de l'incarnation. Parce que l'homme ne peut pas sauver l'homme, c'est-à-dire l'humanité. L'homme fait partie de l'espèce humaine. Donc il est un dans une série, même si Dieu avait recommencé le geste de la création. Il n'aurait pas été l'homme descendant d'Adam et Ève. Donc il n'aurait pas été pleinement homme. Un martien aurait-il pu sauver l'homme? Si ce martien était envoyé de Dieu et qu'il avait un pouvoir extraordinaire, oui. Alors, ce n'est plus l'homme qui sauve l'homme. Donc il fallait l'incarnation. Un homme qui soit parfaitement homme et qui soit en même temps Dieu. Et ça, c'est le coup de génie de Dieu. On est habitués, nous, à voir ça. Alors, on ne voit pas ce qu'il y a de génial. Montrer à l'homme qu'on l'aime. Et pour ça, faire que ce soit l'homme qui rachète l'homme. Mais pour cela, il fallait l'incarnation. Et c'est pour ça que je ne peux comprendre le mystère de la croix que si je regarde le mystère de l'incarnation. Le Verbe qui devient chair. Le Verbe qui devient homme. Le Christ qui est à la fois Dieu et homme. Alors, un mot sur le mystère de l'incarnation. Sans voir tout le traité de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, c'est une des personnes divines qui, de fait, assume. C'est le mot assumer qui est le plus juste. Qui assume une nature humaine, un individu, dans l'unité de la personne. C'est pour ça qu'on dira, et ça c'est de foi, ce sont les premiers conciles qui l'ont précisé, dans le Christ, il y a une personne et deux natures. Une personne, c'est la personne du Verbe. Et deux natures, nature divine et nature humaine. Ah, vous voyez, là, on est en face d'expressions qui se sont précisées progressivement, pas d'un seul coup. C'est pas directement dans l'écriture, ça. Mais pour comprendre parfaitement ce qui est dit sur le Christ, il faut préciser que Jésus, c'est le Verbe qui a assumé la nature humaine. Et donc il est à la fois Dieu et homme. Dans une unité personnelle. Et c'est ce qu'on appellera le mystère de l'union hypostatique. C'est un terme consacré, ça. Hein. Évidemment, au catéchisme, n'en parlez pas, parce que le terme. Et puis la répétition, vous verriez ce que ça deviendrait, l'union hypostatique. Je ne sais pas ce que ça ferait. Le mystère de l'union hypostatique. Hypostasis. C'est un mot grec, hypostasis, hypostase, hypostase. Et le terme hypostase, c'est justement la personne qui fait subsister en elle-même la nature humaine. Et les premières discussions, les premiers conciles se sont passés en grec, pas en Grèce, mais on parlait grec. Et les premières définitions de l'Église sont en grec. Les premiers credos sont écrits en grec. C'est sûr, c'est la langue de l'Église. Et bien alors après, quand il y a eu la séparation des Grecs et des Latins, les Latins ont écrit latin et les Grecs ont écrit grec. Les discours du pape aujourd'hui sont tous écrits en latin. Le pape les écrit en polonais, ils sont traduits en italien et ils sont traduits en latin. C'est très joli ça. Pas traduire directement le polonais en latin, ça va pas. Il faut de langue vivante. Et le latin, du latin en italien, ça va de soi, hein. C'est facile. C'est pas très difficile. Tandis que traduire le polonais en latin, pas commode. Ils sont slaves. Pas commode. Pas tout à fait la même logique. Et ça sent du reste, on sent très bien. Alors, en grec, hypostasis, qui se traduit littéralement hypostase, veut dire la personne. L'hypostase dans une nature raisonnable, c'est la personne. C'est ce que dit textuellement saint Thomas. L'hypostase qui fait subsister une nature raisonnable, c'est la personne. Donc, comprenons bien que le mystère de l'union hypostatique, le mystère du Verbe devenu chair, c'est le Verbe de Dieu qui assume dans son intimité la plus grande. C'est pour ça que certains pères parleront des épousailles de la nature humaine par le Verbe. C'est une union personnelle, pas dans une seule chair, mais dans une seule personne. C'est la nature humaine qui est assumé en Dieu. Alors vous voyez, hein, la rage du démon. Il n'a pas voulu que Dieu réalise son chef-d'œuvre dans l'homme et la femme. Il est arrivé à faire que l'homme et la femme tournent le dos à Dieu. Et Dieu, comme réponse, fait que l'homme dans le Christ est uni personnellement au mystère du Verbe. Il est un avec le Verbe. Un dans son existence. Il est un. Donc la nature humaine dans le Christ est Dieu. Voyez cette réponse de Dieu. Là, on voit la qualité de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui fait davantage comprendre ça. Se servir de la faute, de la bêtise de l'homme, pour donner à l'homme encore plus. Pour le prendre dans une intimité nouvelle et donner quelque chose encore beaucoup plus grand. Ça, c'est beau. Ça, c'est la magnanimité de Dieu. C'est pour ça que c'est merveilleux de regarder ce geste de Dieu, qui est toujours actuel. Notre humanité, oui, notre humanité qui, à cause d'Adam, est née dans le péché, notre humanité, grâce au Christ, est auprès du Père, comme un fils. Notre humanité, c'est ça qui est fou. Notre humanité dans le Christ est Dieu. On comprend bien, hein, comment le peuple juif, qui était tellement habitué au monothéisme, un seul Dieu, en face du polythéisme, voilà que tout simplement, Jésus dit, Le Père et moi, nous sommes un. Il aurait fallu une dose d'humilité et une foi contemplative pour entrer. Et les théologiens, une dose d'humilité, les théologiens, pas commode. Ils savent qu'ils savent. Donc c'est une peine énorme d'accepter quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et ils acceptent dans la mesure où ils comprennent. Vous savez, quand on dit à quelqu'un « Oui, je vais vous obéir parce que ce que vous dites, c'est très intelligent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. » Vous avez parfaitement raison. Oui, alors à ce moment-là, on n'obéit pas parce que c'est l'autorité qui nous le demande, mais on obéit tout simplement parce qu'on trouve que c'est raisonnable. Et on glisse. Et on perd progressivement, si on faisait pas attention, le mérite de l'obéissance. Et on perd ce que représente la foi. Il faut bien saisir la grandeur de Dieu qui, dans sa sagesse, veut envoyer son Fils auprès des hommes de la manière la plus proche qu'il soit d'eux. Et c'est pour ça que le Verbe devenant chair, s'incarnant, va s'incarner à partir de Marie comme mère, pour vivre tout ce qu'un homme vit. Un homme, il a des étapes successives. Nous avons été dans le sein de notre mère. À un moment donné, nous étions le premier moment de la conception. On a été tout petit, pas grand-chose. Vous voyez la manière dont certains parlent aujourd'hui de ce premier moment de la conception. On a été embryon. On est né. On a été éduqué. Puis à un moment donné, on s'est dit, maintenant, ça va. Je peux voler de mes propres ailes, quitter le nid, et puis y aller. Alors quand on a fait ça trop tôt, on a fait des chutes. Parce que nos ailes n'étaient pas assez fortes pour nous porter. Puis au bout de quelques chutes, on s'est relevé quand même progressivement, et on est arrivé à peu près, Dieu étant, ça a été. Jésus veut vivre tout ce que l'homme vit, tout ce que l'homme, dans l'espèce humaine, vit, pour être parfaitement notre frère dans l'humanité. Ça, c'est très très beau. Encore la miséricorde, pour être tout proche de nous, pour être l'un de nous. En même temps, il est Dieu. Et c'est pour ça qu'il naît d'une mère immaculée, d'une mère toute pure. Et c'est pour ça qu'il naît d'une maternité miraculeuse, l'œuvre de l'Esprit-Saint, en Marie. Vous voyez, toujours les deux aspects. Il est à la fois homme, pour être tout proche de nous, et en même temps Dieu, pour donner à toutes ces opérations une valeur infinie. Ce que nous verrons demain.